L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Michel Rothé, administrateur et surtout créateur du site internet du judaïsme d'Alsace et de Lorraine depuis Jérusalem, un outil participatif qui collecte nombre de pépites, documents, photos, articles en lien avec le judaïsme alsacien et lorrain. Michel Rothé, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir. Je vous avais déjà eu en ligne peu après le 7 octobre que vous nous racontiez votre quotidien à Jérusalem. Alors, pour revenir à ce site du judaïsme, ce site alsacien-lorrain que vous gérez depuis Jérusalem, c'est là où c'est original. Alors vous êtes un chasseur de mémoire, je dirais même un collecteur de mémoire avec votre appareil photo. Je confirme, vous êtes arrivé avec un appareil photo en bandoulière. Vous avez depuis votre jeune âge photographié les synagogues en Alsace autour de Mulhouse, votre ville natale, et puis plus largement dans toute l'Alsace. Alors comment elle est née cette passion de la photographie et du patrimoine juif ?
Il y a très longtemps à Mulhouse, dans les années fin 60, il y avait un professeur Paul Schlinzi qui était venu faire un topo sur les sites juifs dans le Haut-Rhin. J'ai encore les notes. Et de fil en aiguille, ça m'a toujours... intéressé, et du temps de mes études à Strasbourg, j'ai commencé à faire systématiquement les photos de toutes les synagogues. Alors parfois, il y en a, pour la petite anecdote, quand je suis arrivé à la synagogue de Buxwiller, qui n'était pas encore un musée, loin de là, et je n'avais pas de clé. Heureusement qu'il y avait une fenêtre brisée sur le côté, et c'est par la fenêtre brisée que je suis rentré à l'intérieur, où j'ai fait des photos dans l'état où elle était encore depuis la guerre, en quelque sorte, avec des étais à l'intérieur, enfin une situation d'insalubrité totale. Et c'est que par la suite que M. Gilbert Weil, qui a émis l'idée de concevoir ce musée, qui est vraiment un bijou dans le travail, dans ce qu'il représente aujourd'hui.
Mais ces photos, aujourd'hui, rejoignent les archives d'Alsace, parce que ce sont des documents rares. En fait, ces photos que vous avez faites à l'époque... Elles n'existent pas.
Elles existent.
Elles existent puisqu'on a les vôtres.
Elles existent.
Mais à part les vôtres, il n'y en a pas. Bah,
mettons
certainement
que,
pas.
Pour aller un peu vite, c'est quand mon livre sur les synagogues d'Alsace que j'ai fait avec mon beau-père, Max Warchawski, ça a été un petit peu, sans vouloir m'enorgueillir, ça a été un petit peu le catalyseur des journées du patrimoine. Avec Claude Bloch, elle s'en souvient encore très bien. C'est à partir de là que le Bnebrit a pris ça en charge, ça a entraîné les journées du patrimoine local, trans-rhénan et européen et Ben-Léomi en quelque sorte. Donc ça a été un peu le catalyseur. Maintenant, il ne faut pas oublier que le site, pour la petite anecdote, il existe depuis 27 ans. Alors, un site internet qui a 27 ans d'âge, ce n'est pas courant non plus.
C'était les tout débuts, les balbutiements
de
l'Internet.
Ah, les balbutiements à 28K, 56K. Et je me rappelle encore quand j'ai envoyé trois messages à trois sites internet, deux sites juifs et le troisième, c'était les Dernières Nouvelles d'Alsace. Et le responsable du serveur des Dernières Nouvelles d'Alsace, Michel Landaret, dans la demi-heure m'avait écrit, mais il n'y avait pas de problème, un partenariat, on commence. Et puis, il m'envoie des codes FTP, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. C'était un coup de tête, hein, plus qu'autre chose. Mais le coup de tête, il perdure depuis 27 ans. Et bon, j'ai eu de la chance qu'il y a une de mes patientes, Barbara Weil, qui s'y connaissait un petit peu en site internet déjà. Et qui sait, elle est aussi originaire de l'Alsace, d'Altstadt. On a commencé à ça ensemble. J'ai défini un certain nombre de rubriques entre histoire, patrimoine, dialecte, tradition, culinaire, généalogie, j'en passe, synagogue, site juif. Et puis depuis, on perdure.
Et puis les gens contribuent alors et donnent des documents.
Alors je reçois des documents de partout. Bah, je vais vous dire, l'autre jour j'étais au cimetière de Königshofen. Et j'ai commencé à faire les photos des tombes du cimetière de Königshofen. Et je tombe sur la tombe d'un rabbin Glaser. Et je me rappelle qu'il y avait une dame au Canada qui m'avait contacté il y a quelques années, Catherine Sagues, et qui recherchait ses origines, si j'avais connu un rabbin Sagues. Bon, il est décédé il y a quelques bonnes années, pas loin de 100 ans pratiquement. Et Et en tombant sur cette tombe, bah, j'ai dit, il faut que je lui envoie, mais je ne me rappelais plus son nom. Alors, je l'ai publié sur Facebook, mais en un temps record, tout le monde réagissait. Ah, c'était mon arrière-arrière-grand-père, Catherine Sagesse, bien évidemment, a réagi. Et j'ai reconstitué en un tour de main pratiquement la biographie de ce rabbin.
Donc, c'est intéressant que vous parliez du compte Facebook, parce que ça, c'est un outil extraordinaire qui vous a permis aujourd'hui de faire connaître ce site à tout le monde. Et là, ça réagit, ça surréagit. Il y a effectivement des contributeurs. Ça permet d'ouvrir une discussion, j'allais dire, à l'échelle planétaire, presque.
Pratiquement. Je vais vous dire, j'ai créé le site, la page Facebook en 2017, donc ça fait quelques bonnes années, et c'est un outil en parallèle au site lui-même. Et ça permet de découvrir, pas plus tard que hier, il y a un historien du côté de, je ne sais plus si c'est de Bichviller, qui m'envoie si je peux publier un appel pour retrouver des descendants de déportés et autres. Ben, cette nuit à minuit et demi, je lui envoie un message. Le fils de telle et telle personne a déjà réagi. Bon, ben, il était content. Il y a eu de la réactivité pratiquement, on peut dire, immédiate. Et c'est vraiment un outil
De recherche comme ça, de généalogie, beaucoup.
De généalogie, de perdu de vue en quelque sorte, et de retrouvailles. Ouais. Et ça marche non-stop. Ça marche non-stop.
Je sais que j'avais reçu une auteure de livre, Martine Silberstein, qui était à la recherche de son arrière-grand-oncle, mais donc un arrière-grand-oncle, le rabbin Brunswig, qui avait dû...
Brunswig, oui,
voilà. En fait, je lui donnais l'adresse, effectivement, de ce compte Facebook, et je vois qu'elle contribue régulièrement, elle a trouvé.
Ça fait longtemps qu'elle m'écrit, qu'elle m'envoie tous les documents, effectivement.
Nous, on n'a pas été capable de l'aider ou de trouver un appel à témoins, mais
on
vous l'a envoyé.
Le jardin d'enfants de Strasbourg, au départ, s'appelle le jardin d'enfants Brunswick. C'était...
Le Gan Shalom, hein.
Le Gan Shalom, oui, absolument, okay. Oui. C'était au départ le jardin d'enfants Brunswick. Je crois que j'ai encore des photos des tout débuts de ce jardin d'enfants. Oui, absolument.
Alors... Le site, c'est grâce au site que l'ancien maire de Strasbourg, ça c'est une anecdote également, en 1955, et ancien directeur des cultes d'Alsace et de Lorraine pendant la guerre 39-45, il s'agit de...
Charles Altorfer.
Exactement. A été nommé
vous
ne
mourrez pas. Hein, j'ai...
a été nommé juste parmi les nations. Tout à fait. Parce qu'en fait, on a pu retracer également ces éléments, ces faits de guerre glorieux grâce à ce site, grâce à des documents.
Non seulement... il était très impliqué pour la communauté, mais j'avais trouvé aussi une femme témoin qui a fait son témoignage pour Yad Vashem et qui a été sauvée des griffes de la Gestapo à Limoges pendant la guerre. Et c'est Madame Janine Bloch, la femme de René Weil, et grâce à son témoignage, et en fait j'ai trouvé à travers le bulletin de nos communautés que j'ai chez moi à la maison relié en je ne sais combien d'exemplaires, puisque j'ai depuis le premier numéro jusqu'en 68 le dernier numéro, que j'ai chez moi parce qu'au décès du grand rabbin Deutsch, il y avait les deux fils, et un des deux qui dit « Vous êtes qui, vous ?» avec le même ton cassant qu'avait son père. J'ai dit « Michel Roth. » »« C'est vous, Michel Roth ?»« Oui. »« Vous voyez ce qu'il y a là-bas sur l'étagère ? Descendez-le, prenez-le avec vous. » J'ai dit « Écoutez, je suis venu pour la Shiva. » Il se lève, descend tous les volumes, il dit « Prenez ça avec vous dans votre voiture. » Et aujourd'hui, c'est une mine d'informations. Alors, effectivement, on évoque beaucoup Charles Altorfer en termes dithyrambiques, vraiment quelque chose d'extraordinaire, oui. Parce qu'il a été présent de tout moment, et encore, pour une petite anecdote, quand il y a eu la création du psil du petit séminaire israélite de Limoges pendant la guerre, il fallait avoir le visa... l'autorisation du gouvernement de Vichy, et celui qui était l'intermédiaire de l'État, du gouvernement, c'était Charles Altorfer. Et ça a été accepté en tant que séminaire religieux. Bon, et c'est comme ça que l'école a pu se créer. Et alors juste pour la petite anecdote, il y a un livre qui est sorti il y a tout juste 3 jours sur le séminaire israélite de Paris. Et un des chapitres, c'est justement sur le PSIL et l'école rabbinique de Chamalières durant la guerre. Et c'est le chapitre qu'on m'avait demandé de réaliser justement pour cet ouvrage. Alors, je ne fais pas la publicité, mais j'en profite pour faire connaître cet ouvrage, quoi.
Vous êtes un petit peu le dépositaire aujourd'hui de toutes ces petites histoires qui rejoignent la grande histoire des racines de la communauté juive ici en Alsace. Il est besoin encore aujourd'hui de parler de ces racines. Vous avez parfois le sentiment qu'on oublie, que là encore, il y a quelques jours, il y a eu un reportage de télévision autour du mikvé de la rue des Charpentiers à Strasbourg. Il est toujours encore besoin de rappeler ces racines ancestrales.
Je vais vous dire, si on ne les rappelait pas, on les oublierait. Tout simplement parce que si vous demandez, essayez de demander à des jeunes aujourd'hui de la communauté, vous savez qui est le rabbin Warshavski ? Alors, ce n'est pas parce que c'était mon beau-père, mais je ne suis pas persuadé que beaucoup le sauraient. Et ça, ce n'est pas très vieux encore. Mais il y a une sorte d'oubli, une sorte de... Une autre petite anecdote qui me vient en tête, c'est que... Quand mon père est décédé, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, il avait toujours dans son portefeuille, il avait la facture de l'acquisition des concessions. En général, tradition chez les Juifs alsaciens, on faisait l'acquisition d'une concession pour les jeunes mariés. Et mon père avait toujours gardé ça.
On parlait du cimetière, là.
L'acquisition de concessions pour le cimetière. Et alors, je téléphone à la communauté à Mulhouse et je dis voilà, mais on veut voir le papier. Bon, bah, je vous montre le papier. Il me dit mais qui c'était Achille Weil ? Achille Weil ? En son temps, il a été, après la guerre, il a été secrétaire de la communauté. Après, il a été directeur de la maison de retraite de Pfastatt. Et je peux juste vous confirmer qu'à la suite des 24 heures du Mans, il s'est fait tuer un accident 24 heures du Mans. Et c'est marqué sur sa tombe à Mulhouse, mort 24 heures du Mans. Mais les gens ne le savent plus. Ces petites histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres, plus personne ne sait rien. Et je pense que... Encore là, il y a 2-3 jours, quelqu'un qui me dit « Ah ben, c'est quoi la tradition de l'assiette à casser pour les fiançailles ?» Ben, je renvoie sur le lien.
Et vous avez les documents qui expliquent.
Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de documents. Bon, c'est vrai que je suis aidé entre la personne qui me montre les pages, Barbara Weil, Alain Kahn, qui préside l'association du site internet du Judaïsme d'Alsace et de Lorraine. Et de fil en aiguille, on construit en quelque sorte une encyclopédie online et avec des biographies de rabbins, des biographies de chazanim. Il y a quelques jours, je reçois un mail d'une fille Granate de Panama City. Vous voyez ça ?
Oui, effectivement.
Alors, qui c'est cette fille ? Son père avait été chazan à Mulhouse dans les années 51. Mais qui était Srazan, en fait, lui venait de Hongrie. Il avait été élève de Béla Bartók, tout comme Marcel Laurent aussi. Et quand arrive la guerre, il est envoyé dans le camp de travaux forcés. Et ce qui lui sauve la vie, c'est sa voix, où il chante dans les camps de prisonniers. Celle qui deviendra sa femme, Myriam, elle habite Budapest. Elle est envoyée à Auschwitz. Elle et sa sœur. Est-ce qu'il les sauve ? C'est leur voix de soprano. Ils se retrouvent dans un camp de personnes déplacées et ils décident de se marier. Mais pour eux, se marier en Hongrie, c'est se marier dans un cimetière et on ne veut pas se marier dans un cimetière. Pour eux, c'est du passé. Ils quittent la Hongrie, ils aboutissent à Paris. Et de fil en aiguille, entre les Stibler, il apprend la chazanout chez Léon Algazi. Vous voyez, tout. Et puis il aboutit à Strasbourg, à Mulhouse. Et il fait des offices à Mulhouse, mais il ne connaît pas la chazanout alsacienne, bien évidemment. Chez qui il apprend ? Chez Joseph Bourin. Chez qui il apprend ? Chez Bertrand Joseph. Et il organise des concerts à Tannes, à Guebwiller, à Mulhouse. Elle est parfois remplaçante au théâtre de Mulhouse, puisqu'elle avait sa voix de soprano. Et en 58, Bertrand Joseph lui dit, si tu veux, il y a un poste disponible au San Salvador, en Amérique du Sud, où habitait le frère de Bertrand Joseph. Et c'est comme ça qu'il a abouti à San Salvador. Il y reste une quinzaine d'années jusqu'à ce qu'il y ait un renversement militaire. Et là, il est obligé de quitter en catastrophe pour Panama, où il terminera sa vie et il terminera comme Razan à Panama City. Et sa femme avait envoyé à l'époque des cassettes, des enregistrements de Razanout. Et c'était la Razanout typiquement alsacienne, telle que je la connaissais de Bertrand Joseph, chantée à Panama City. Et quelques temps après, le rabbin de San Salvador, qui est à Jérusalem pour un congrès rabbinique, me téléphone, me dit « Je peux te voir ?» Je dis « Oui ». Il vient me voir, je ne connaissais pas. Il me dit « Je dois te remettre de la part de Myriam Granat ces deux disques, c'est de la Razanout qui avait été enregistrée au San Salvador, Razanout alsacienne aussi. »
Incroyable, comme les choses se recoupent. Alors, comme ce que vous me racontiez juste avant qu'on ouvre cette antenne, qu'on ouvre le micro et ce livre qui a été retrouvé aux Philippines, en Indonésie. Enfin, les choses se recoupent. Enfin, voilà, vous avez aujourd'hui, vous êtes quand même...
C'est une toile, qui s'étend dans toutes les directions.
Jean-Marie, avant qu'on parle de votre quotidien en Israël et de votre vision de la France depuis Israël, que vous nous parliez d'une personnalité que vous avez rencontrée, Simone Veil.
Simone Veil, j'étais encore étudiant, je m'occupais beaucoup des Juifs du non-soviétique à Strasbourg à l'époque. J'avais accompagné Avital Sharansky au Parlement européen, on y avait passé la journée, et on devait avoir une entrevue avec Simone Veil. Au fur et à mesure de la journée, on nous déplaçait le rendez-vous, et moi j'avais des cours à la fac l'après-midi, Alors, j'ai téléphoné au professeur le plus sympathique du service et je lui ai dit, voilà, alors on me répond, il n'est pas là. Alors, j'ai dit, bon, est-ce que vous pouvez me passer le second, celui qui était le moyen sympathique, si l'on veut? Et, il n'est pas là. Et alors, il restait celui qui était la crainte de tous les étudiants. Je peux vous le passer. On me passe le professeur, j'ai dit, écoutez, voilà... Je suis au Parlement européen avec Madame Simone, avec Avital Sharansky. On attend une entrevue avec Simone Veil. Seulement, j'ai 4-5 patients qui ont rendez-vous avec moi dans le service. Et il me dit, occupez-vous de Madame Sharansky, je m'occuperai de vos patients. Et quand je suis retourné à la fac, ce professeur, qui était vraiment la hantise des étudiants et surtout des étudiantes, m'a dit, bravo pour ce que vous faites. Alors que jamais je n'aurais imaginé de ce prof. Et donc, ça a été une des occupations aussi, il y a bien longtemps, quoi.
Alors, il nous reste peu de temps. On va faire un petit retour sur votre parcours. Diplômé en chirurgie dentaire en 83, l'année même où vous vous installez en Israël. Ça n'a pas traîné. Votre épouse était déjà installée en Israël, hein ?
Je suis arrivé le 23 octobre 83. Mon épouse était arrivée le 23 octobre 80.
Alors, comme une évidence pour vous, l'Alia, c'était pour rejoindre votre
c'était,
épouse hein ?
C'était une idée fixe depuis...
Vous l'aviez déjà en tête.
Je ne le criais pas sur les toits, mais c'était au programme.
Alors, 4 enfants nés en Israël. Aujourd'hui, ils parlent français, ces enfants ?
Tous.
Ils sont francophones ?
Tous.
Ils sont franco-israéliens ? Ils sont israéliens ?
Ils sont franco-israéliens, oui, si. Leur épouse, pour certains, une est déjà française aussi. La deuxième, une autre a déjà fait l'examen de français parce qu'elle a peur qu'il devienne plus difficile, mais elle a passé haut la main et elle doit encore attendre, mais elle voudrait aussi avoir la nationalité française.
Donc l'importance de la culture française.
Oui, ça a quand même un... Alors bon, dans l'éventail des origines des belles-filles, en l'occurrence, mon aîné est marié avec une femme moitié américaine, moitié iranienne. Mon second, c'est d'origine ukrainienne. Mon troisième, ses deux parents sont originaires de Beyrouth.
Libanaise.
Et le dernier, sa mère est d'origine marocaine et son père d'origine kurde.
Alors, votre vision depuis Israël sur ce qui se passe ici en France depuis le 7 octobre. Alors, on l'a entendu quand on avait fait une interview après le 7 octobre, ce que vous pouvez ressentir en Israël aujourd'hui, dans l'attente certainement, et chaque jour amène son lot d'attentes et pas toujours heureuse. Mais votre vision depuis Israël sur un pays comme la France, un pays en paix encore aujourd'hui, avec une montée de l'antisémitisme. Tous les sondages aujourd'hui le dénoncent. Qu'est-ce que vous en pensez, et justement avec votre regard d'Israélien ?
C'est vrai que on est terriblement marqué, je dirais, psychologiquement de tout point de vue. Nous sommes malades de tout ce qu'on a vécu depuis cette époque-là, et on continue à l'être parce que l'avenir n'est pas encore très 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 joyeux, c'est le moins qu'on puisse dire. De ce qui se passe en France, et quand on voit ces manifestations, des vidéos qui me sont parvenues il y a quelques jours, que j'ai partagées sur la page Facebook en l'occurrence. Alors, certains me reprochent d'en mettre de trop, parce que ce n'est pas le sujet du judaïsme d'Alsace et de Lorraine. Mais d'un autre côté, c'est difficile un peu de se couper de cette actualité qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Et quand l'actualité est chaude et brûlante avec ce qui se passe, je peux difficilement faire qu'une une fixation sur le judaïsme d'Alsace et de Lorraine. Donc, tout s'imbrique d'une certaine manière. Et bon, cette manifestation qu'il y a eu à Strasbourg, entre autres, avec ce soutien soi-disant pour les femmes, mais qui était très déguisé, il n'y avait pas beaucoup d'aspects féminins de ce point de vue-là. Alors, c'est sûr que ça perd le nord. Alors, ce qui est d'un côté rassurant, j'ai des contacts avec un certain nombre de personnalités. Il n'y a pas longtemps, il y a une sénatrice qui m'appelle depuis l'hémicycle pour me dire qu'elle est toujours en contact avec moi. Et il y a des journalistes, il y a un certain nombre de personnes ou des gens qui envoient des messages. Je me rappelle d'un couple de pasteurs qui avait envoyé un message depuis Dimringen, mais un message qui apporte du bon au cœur, oui. Surtout dans le contexte de tout ce qu'on vit. Mais d'un autre côté, on n'arrive plus à comprendre dans quel monde on vit. Avec tout ce qu'on a vécu, moi j'ai grandi finalement dans la communauté de Mulhouse où j'ai de tout temps, j'ai porté la kippa. Depuis l'âge de 3 ans, j'avais ma kippa avec des Edelweiss et le petit pompon qui pendait derrière. J'ai retrouvé un copain qui allait avec moi le lundi matin. On allait ensemble à l'école à 9h et pas 8h parce que la première heure, c'était le cours de catéchisme et lui était athée. Et moi, j'étais comme juif, évidemment, j'ai été dispensé de ce cours.
Il n'y avait pas de
J'ai jamais
de
eu
problème
un sentiment.
De communauté.
Ça fait pratiquement depuis un an et demi à peu près, où à l'époque, ma mère me disait « Ne te promène pas, plus en kippa, c'est dangereux. » Et c'est vrai que...
Et vous l'appliquez ça aujourd'hui à Strasbourg ? Vous enlevez votre kippa dans la rue ?
Ma sœur ne me laisse pas... Elle me dit « Tu prends la casquette. Hein. » Alors, c'est vrai que... Bon, je ne dis pas que je ne vois pas de gens avec kippa,
oui.
Mais c'est sûr qu'il y a un état de fait qui n'incite pas à être très, très rassurant et rassuré.
Et votre regard, vous, sur l'évolution de cet état de fait, sur comment est-ce que, justement, le dialogue peut reprendre entre certaines communautés ? Vous êtes optimiste quant à ça ?
Je sais que j'ai un beau-frère qui fait partie d'un groupe interreligieux du côté de Saverne. Et à un moment des faits, c'est des reproches qui ont été faits à Israël plutôt qu'à sur le Hamas et sur. Et depuis, mon beau-frère a quitté le groupe. Parce que ça dépassait, il n'y avait pas de soutien. Il y a une personne de tout le groupe qui s'est engagée du côté de mon beau-frère, mais pas plus que ça. Donc,
on sent que l'opinion publique est compliquée.
Alors que d'un autre côté, par exemple, à la mairie de Saverne, où il y a eu une exposition il n'y a pas longtemps sur la communauté juive, il y a des choses qui se passent positivement aussi. Je ne veux pas donc dénigrer tout et dire que... Mais on est dans une situation où il faut espérer revivre des journées qui chanteront à nouveau, quoi.
Écoutez, on va finir sur cette note. Évidemment, on le souhaite tous. Michel Rothet, je rappelle, administrateur et créateur du site internet du judaïsme d'Alsace et de Lorraine. Vous êtes venu nous voir. Vous reprenez l'avion demain pour Jérusalem. On vous souhaite évidemment bon voyage. Merci. On a l'impression de rester tout le temps en lien quand même et cette proximité liée justement au réseau, à ce que vous postez. Et vous êtes quand même pas mal dessus. Hein. On voit que vous réagissez très vite. Quand vous modérez ou pas vous autorisez.
Alors parfois, c'est vrai que je suis un petit peu occupé, alors on me reproche parce que j'ai laissé passer quelque chose, mais c'est vrai que
c'est presque un boulot à plein temps.
Ça prend beaucoup de temps. Heureusement, je suis plus proche de la retraite qu'autre chose. Alors ça me permettra d'avoir encore beaucoup plus de temps disponible pour la suite du projet.
Merci en tous les cas pour tout ce que vous faites. Merci.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.